Ça fait toujours plaisir quand on passe un moment de louange où j'entends les pépites de ce que je vais partager maintenant. Ça m'encourage parce que ça veut dire que je suis sur la bonne piste. Donc merci l'équipe de louange, merci Fred pour les inspirations de ce matin parce que c'est vraiment dans la ligne de ce que j'ai vraiment à cœur que Dieu nous dise ce matin. Nous avons beaucoup entendu ces derniers dimanches, on a une sorte de suite de prédications où Alex et puis Fred ont parlé, et bon, d'abord Antoine, ont parlé du chemin. Et j'ai ma part que j'aimerais apporter à cette séquence-là. Et on va commencer en Matthieu 7. Matthieu 7, 13-14, c'est un verset qu'on a entendu pendant, je pense que c'est une prédication d'Alex. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Qui sont peu nombreux ceux qui les trouvent. C'est fort comme passage. C'est un verset que nous connaissons, que nous avons entendu récemment. Et le choix devant nous est clair. Ce qui est présenté là, c'est ce qui se passe avec Dieu et ce qui se passe sans Dieu. C'est l'éternité avec Dieu, l'éternité sans Dieu. Et pour les chrétiens, aujourd'hui, on a tendance à se dire, oui, je suis déjà passé par la porte étroite. J'ai déjà fait, c'est bon. Je coche la case. Mais c'est vrai, le fait qu'on parle ici de l'éternité, c'est effectivement le cas. Mais comme avec beaucoup de choses dans la parole, il y a beaucoup plus de profondeur dans ces versets-là que simplement de parler de ce qui se passe dans 50 ans quand je ne serai plus là. Okay? Et c'est ça qu'on va explorer ce matin. Moi, parce qu'on est au 21e siècle. Okay? Donc moi, j'imagine cette porte étroite un peu comme un portique de sécurité. Comme on trouve à l'aéroport. Okay? Ça, c'est, quand je lis ce passage-là, ce que je vois, c'est le portique de sécurité. Vous savez, quand tu prends l'avion, tu arrives à l'aéroport et l'espace est énorme. Et tu as ton petit chariot et tu pousses ton chariot, tu as toutes tes valises dessus. Tout ce que tu veux, c'est dans tes mains. Tu es entouré de tout le monde qui va voyager avec toi. Il y a même la famille qui est venue dire au revoir. Et voilà, on circule facilement. Et puis arrive le moment où tu dois passer par l'enregistrement de tes bagages. Et donc, tu déposes tes gros valises là. Et tu sais que si tout va bien, tu vas récupérer tes valises en arrivant à votre destination. Mais ça va. Parce que même si tu n'as pas tes valises, tu as toujours ton bagage à main. Et dans ton bagage à main, tu as ta brosse à dents et ton iPad et du chocolat et tout ce qu'il faut pour bien passer votre voyage. Et tout va bien. Mais il faut savoir que si tu veux prendre l'avion et si tu ne veux pas rester à l'aéroport, tu dois passer par le portique de sécurité. Et quand vous arrivez là, c'est toi et personne et rien d'autre qui passe par ce portique. Pour passer par là, tu dois vider tes poches. Tu dois sortir tes clés. Et si tu as de l'argent, parfois on te demande d'enlever ta ceinture. Et donc tu passes un peu comme ça, parce que tu as un peu peur que tu vas perdre ton pantalon. Tu dois enlever tes chaussures, parfois. Tu dois enlever tes boucles d'oreilles, parfois. Et tout doit être rendu pour l'inspection. Okay. Et nous avons entendu récemment que Dieu veut nous débarrasser de nos péchés et de tout ce qui nous tient vers le bas. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, que si on arrête simplement à ces choses-là, on a raté quelque chose dans ce que ça veut dire être un disciple de Jésus. Parce que Dieu, il veut scanner tous nos bagages. Okay? Nous devons être prêts à tout rendre. le bon et le mauvais. Ce n'est pas juste les mauvaises choses qu'on rendra à Dieu, c'est ce qui est bon qu'on rendra à Dieu aussi. Et le truc avec Dieu, c'est qu'on ne va pas forcément tout récupérer de l'autre côté. Même les choses qui nous semblent inoffensives. Il y a certaines choses, j'ai déjà fait l'expérience, en allant aux États-Unis, on partait voir les Miller. Et à l'aéroport, dans mon bagage à main, j'avais une broche à cheveux. Inoffensive, on dirait. Mais l'agent de douane ne voulait pas me laisser passer avec ça, parce qu'il avait l'impression que la manche était un peu trop pointue et je pouvais, je ne sais pas, faire les dégâts avec. Pour moi, je n'avais même pas pensé que ça aurait pu poser problème. Mais j'ai dû complètement vider mes bagages à main, tout sortir, parce qu'ils pensaient que j'avais une arme dedans. Genre, je sors la brosse à cheveux. Non, ce n'est pas une arme, je vous assure. Mais tu sais, parfois, nous, on ne voit pas ce qu'on a dans nos bagages. Et Jésus avait une expression pour cela, qu'il utilisait régulièrement dans son enseignement. Et il y a un exemple de cet enseignement dans chaque évangile. Et quand les choses sont répétées, ça veut dire qu'il faut bien qu'on prête attention à cela. Et à chaque fois qu'il sort cet enseignement, ce petit enseignement, c'est dans un contexte un peu différent. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va regarder le même enseignement dans les quatre contextes différents pour voir qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire par cet enseignement. Et le premier exemple, on trouve en Matthieu 10, c'est versets 38-39. Ce sont des versets que vous allez connaître. Celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Okay? Ça, c'est l'enseignement qu'on va regarder. Jésus, il place cet enseignement dans l'évangile de Matthieu. C'est placé à un moment où il parle de notre position aux yeux de tout le monde. Et il parle dans un contexte de ce que nous disons et ce que nous faisons. Okay? Et nous serons appelés parfois à abandonner notre réputation devant les autres pour obéir à Dieu dans ce qu'il veut qu'on fasse et ce qu'il veut qu'on dise. Et ça veut dire qu'on va perdre face. On va peut-être expérimenter un peu de ridicule. Il y a des pays où c'est beaucoup plus grave que ça. C'est la persécution. Et pour nous, lorsqu'on parle de perdre la vie, on parle rarement de vraiment perdre la vie. Pour nous, en général, ici, dans la culture où on vit, on a plus de liberté. Mais il y a des personnes pour qui ce verset-là, c'est une réalité très claire. Vous allez en Corée du Nord, je vous assure, c'est pas la même chose que la France. Okay? Donc, pour nous, on est plus dans cette idée de ridicule ou de persécution, mais il peut y avoir des conséquences qui sont difficiles à vivre. C'est vrai. Mais Jésus, il nous rassure après ces versets-là. Il dit, en fait, ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Et c'est ça qui, quelque part, apporte la compensation pour ce que nous allons perdre. Mais Jésus, il est quand même très, très clair dans ce passage. Versets 32-33, c'est le même chapitre. Il dit, c'est pourquoi celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père céleste. Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon Père céleste. Baf. Moi, je lis ça et j'ai vraiment des questions par rapport à mon comportement. C'est, en fait, est-ce que je suis en train de faire ce qu'il faut là? Est-ce que mes paroles sont les paroles qu'il faut avoir? Donc ça, c'est notre premier exemple. Deuxième exemple se trouve en Marc 8, 31-35. Alors, c'est une histoire que vous connaissez très bien. On a parlé de ça assez récemment. Pierre vient de reconnaître Jésus comme le Messie. Et on va reprendre l'histoire au verset 31. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Et j'aime bien ce verset. Il leur dit tout cela très clairement. Okay? Jésus n'est pas ambigu là. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Ah non, Jésus, c'est pas comme ça. » Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement. « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Là-dessus, Jésus appela la foule, ainsi que ses disciples, et leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et en effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Alors Pierre, il a son moment de révélation. Jésus est le Messie. C'est génial. Jésus est le Messie. Celui qu'on a attendu depuis des siècles. Jésus est le Messie. Mais le problème pour Pierre, c'est qu'il préfère la pensée populaire. L'interprétation courante à l'époque de ce Messie qui va chasser les Romains et tout le reste. Il a vraiment du mal à accepter l'explication de Jésus. Pourtant, Jésus était très clair. Mais Pierre, il ne pouvait pas concilier ces deux idées de Messie avec l'image populaire que ça avait et Jésus qui dit, bon, en fait, on va me tuer, voilà. Je vais être mise à mort. Et Pierre ne l'accepte pas. Et puis, il y a cet enseignement qui dit, bon, en fait, il faut que tu perdes. Il faut que tu perdes ce que tu as pris comme acquis pendant très, très longtemps. Depuis sa jeunesse, Pierre a été enseigné comme ça, que c'est le Messie qui va libérer le pays. C'est ça dans la culture. Et Pierre, il a mis du temps pour vraiment accepter l'interprétation de Jésus. Ce qui est super intéressant pour Pierre, c'est qu'en fait, il se trouve dans une situation, parce qu'il a du mal à accepter l'explication de Jésus, il se trouve dans une situation où il prétend ne pas connaître Jésus, ce qu'on a vu dans notre premier exemple. Alors vous imaginez, si ça restait comme ça, ce sera grave pour Pierre, parce que Jésus, devant son père, il a dit, moi, en fait, je ne le connais pas non plus. Heureusement, il y a le pardon, il y a la restauration, ça avance. C'est pas une histoire triste, c'est une histoire joyeuse. Mais ce qui est important là, c'est que nous avons besoin d'être prêts à passer devant le scanner de Dieu, de l'enseignement de Jésus, nos pensées, nos idées, même les fondements sur lesquels on a construit notre vie. Parce qu'il y a des choses acquises qui ne sont pas forcément en accord avec l'enseignement de Jésus. Et ce que Jésus nous dit, c'est qu'il faut perdre ça. Parce que sinon, les conséquences sont graves. Donc c'est un défi pour nous, parce que ce n'est pas forcément les choses qui sont mauvais, qui sont mauvais. Parfois, c'est les choses qui nous semblent tout à fait, oui, c'est comme ça. Et Jésus dit non, il y a tout qui doit passer devant mon enseignement. Et c'est là où tu vas voir ce que tu ne vas pas récupérer après. Après le portique de sécurité. Et Pierre a dû le faire pour pouvoir avancer dans sa foi et devenir le Pierre qu'on voit dans le Nouveau Testament. Pierre a dû passer par cette étape-là pour vraiment entrer dans ce que Dieu a prévu pour sa vie. Donc on a vu, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense qui doit passer par le portique. Puis on arrive à notre troisième exemple. On est dans l'évangile de Luc, cette fois-ci. Et Jésus, il parle du jour où tout le monde va voir sa gloire. Il parle du jour du Fils de l'homme. Et il dit, on est en Luc 17, 32 et 33. Et il dit, rappelez-vous ce qui est arrivé à la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, la conservera. Donc, même enseignement, formulé un peu différemment. Et rappelez-vous, de la femme de Lot. Bon, c'est qui la femme de Lot? On parle loin dans le passé ici. On est dans le livre de Genèse. Et Jésus fait référence à quelqu'un qui devait tout laisser. Avec très peu de préavis, d'ailleurs. Elle devait tout laisser. Sa position dans la société, ses richesses, c'est une femme riche, c'est une famille riche. Ses conforts dans la vie, son cercle d'amis. Okay? Elle était bien, elle était confortable. Et Dieu dit, si vous voulez sauver votre vie, il faut sortir de là où vous êtes. C'est une situation très malsaine. Alors, humainement parlant, la femme de Lot avait beaucoup à perdre, matériellement, socialement. Beaucoup à perdre. Et Dieu, il était très clair dans son avertissement à la famille. Il a dit, vous sortez de là, vous avancez, vous ne regardez pas derrière vous, vous regardez devant vous, vous avancez, ne vous retournez pas. Parce que ça va mal finir. Et le problème, c'est qu'on lit que la femme de Lot, elle a traîné un peu derrière. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, oh non, mais c'est triste ce que je quitte là. C'est trop dur. C'est trop dur. Et malheureusement, on voit dans l'histoire qu'elle perd la vie. Alors, lorsque nous nous engageons sur le chemin avec Jésus, nous passons par la porte étroite. Nous rendons tout à Dieu. Et si tu suis Jésus, tu vas perdre les choses. Faut pas qu'on soit ambigu là. Si tu suis Jésus, il y a des choses que tu vas perdre. Ça, c'est pas compliqué. La Bible nous dit ça. Parce qu'on rend tout à Dieu. Et si tu as le regret des choses passées, si tu vis dans la nostalgie d'un moment qui était plus facile, plus confortable, qui semblait plus béni. Je ne suis pas en train de parler forcément du péché. C'est peut-être juste une période de la vie qui semblait plus... T'étais plus à l'aise dans plusieurs domaines. Si on a trop cette nostalgie pour un temps passé où ça semblait plus facile, en fait, ça nuit profondément à ta capacité d'avancer dans l'obéissance à Dieu. Parce qu'on est tout le temps en train de ah, mais à ce moment-là, on était plus béni que ce qu'on est aujourd'hui. Ou c'était plus facile, là. Ou j'avais pas les soucis d'argent, là. Ou il y a tout un paquet de choses qui peuvent provoquer une nostalgie en nous pour un moment passé. Mais si on ne passe pas la porte étroite, si on rend les choses à Dieu, on sort de l'autre côté, peut-être on va perdre certaines de ces choses-là. Mais sur l'autre côté, on a l'obéissance à Dieu. C'est un choix. Alors je veux vous donner, raconter juste une petite histoire. Alors ça fait 20 ans presque que Paul et moi nous sommes en France. Et pour répondre à l'appel de Dieu pour venir en France. Paul et moi, tous les deux, on a dû passer par une porte étroite. Il y avait une porte étroite direction la France. Et c'était chacun sa porte aussi. On n'a pas forcément dû rendre les mêmes choses parce qu'on est deux personnes différentes. J'avais une carrière là-bas, une carrière qui faisait ça. Ça avait décollé. J'avais promotion après promotion, augmentation après augmentation. J'avais beaucoup de responsabilités et j'ai gagné très, très bien ma vie. Ça, c'était ma situation à l'époque. Et au moment où Dieu a confirmé notre appel pour venir en France, je savais que voilà, je ne peux pas amener mon travail avec moi. Et Dieu, il a donné le feu vert et j'ai démissionné de mon travail. Alors tous mes collègues pensaient que j'étais complètement folle. Je viens juste d'avoir une promotion. Et puis ça faisait une semaine, 10 jours que j'avais une promotion et je démissionne. Et tout le monde est « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais je l'ai fait sans hésitation. sans hésitation, je démissionne. J'avais un préavis à six mois que je devais travailler parce que j'étais dans une position de haute responsabilité. Donc, il fallait annoncer ton départ 6 mois en avance. Donc, j'avais 6 mois. Pendant ces 6 mois, je commence à chercher du travail en France. Et j'avais trouvé une annonce pour un travail qui correspondait bien à mes compétences, à le genre de responsabilité que j'avais déjà eu, salaire équivalent, très intéressant. C'était à Lyon. Et j'envoie ma candidature et c'est bien reçu par l'organisation là-bas. Et ils payent mon voyage pour assister à un entretien là-bas. Et donc je dis, oh, ça commence bien, c'est super. On est 2 candidats. Donc je dis, oh, c'est bien. Il n'y a pas beaucoup de monde là. C'est, c'est bien, c'est pour moi ce travail. Et avec du recul, honnêtement, je pense que dans ma tête, j'étais convaincue que ce travail était pour moi. Parce que dans ma tête, j'avais rendu ce que j'avais à Dieu et je pensais simplement récupérer de l'autre côté du portique ce que j'avais déposé. C'est juste, c'est logique. Moi, je donne ça à Dieu. Dieu, il va me donner la même chose, mais en France. Okay? Ça, et à l'époque, je n'aurais pas pu mettre les mots dessus. Mais avec du recul, je vois que c'était comme ça que je voyais les choses. Et puis bon, vous voyez bien, je suis à Lille. Je ne suis pas à Lyon. Donc, vous savez ce qui s'est passé. C'est l'autre candidat qu'ils ont pris. Et pour la première fois, le jour où j'ai reçu l'appel là, pour la première fois, je considérais la possibilité que je n'allais pas tout récupérer par rapport à ma vie professionnelle. Et je pense que jusqu'à ce moment-là, ce n'était pas un sacrifice. Parce que je pensais qu'il y allait avoir une sorte de rendement qui allait faire en sorte que j'allais sortir comme je suis entrée. Et vous savez, je suis prof, je vous assure, ma vie professionnelle a pris toute une autre forme qui n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Et en fait, c'est pas le jour où j'ai démissionné que j'ai perdu, entre guillemets, ma vie professionnelle. C'est le jour où j'ai accepté qu'en fait, que je n'allais pas récupérer la même chose de l'autre côté. Et je savais qu'il y avait certaines de mes expériences et de mes compétences qui ne serviraient plus. J'avais un master qui ne servirait plus. Parce que, voilà, changement de direction. Et c'est des choses perdues pour suivre Dieu. Et cela nous ramène à le dernier exemple de cet enseignement. Et c'est dans l'évangile de Jean. Et 2 choses viennent de se produire avant que Jésus reprend cet enseignement. Marie vient de oindre les pieds de Jésus avec du parfum très coûteux. Et Jésus vient d'entrer en Jérusalem. À l'acclamation de la foule, mais il sait très bien qu'il va mourir là-bas. Et qu'est-ce qu'il dit? Voici ce qu'il dit. On est en Jean 12, 25, 26. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Alors, nous connaissons l'histoire de Marie de Béthanie. C'est un événement, encore une fois, raconté dans les 4 évangiles. Elle fait un geste très extravagant, avec un parfum qui était très, très coûteux. Et les disciples n'étaient pas très impressionnés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Leur réaction, c'est « Mais pourquoi un tel gaspillage ?» On aurait pu faire autre chose avec ça. Ça avait une autre utilisation que l'utilisation pour laquelle ça a servi. Alors, je veux faire une connexion ici. Revenons à notre premier verset. de ce matin. C'est Matthieu 7, verset 13. On va juste regarder la première partie. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Alors, ce mot perdition, très intéressant comme mot. C'est le mot, vous m'excusez ma prononciation, d'accord, parce que je ne parle pas l'ancien grec couramment. Dans le grec, c'est le mot apoleia, ou quelque chose qui ressemble un peu à ça, ok, qui signifie que ça a plusieurs significations. Ça peut être la perdition, ça peut être la destruction, la ruine, la perte, le gaspillage. Le gaspillage. Et c'est le même mot que les disciples utilisent pour parler de ce que Marie a fait. Quand il dit « quel gaspillage », ils sont en train de dire « quelle perdition, quelle perte, quelle destruction, quelle ruine, quelle... » c'est le même mot qu'ils utilisent. Et en Matthieu 26, 8, 9, ils s'indignèrent. Ils s'indignèrent les disciples. Pourquoi un tel gaspillage? On aurait pu, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Vendre ce parfum, donner aux pauvres. C'est très noble comme aspiration. Okay? On pense aux pauvres. Mais la connexion que je veux faire ici, c'est que ce mot apoleia, la perdition, le gaspillage, ce n'est pas uniquement ce qui se passe à ta mort si tu as choisi de ne pas cheminer avec Jésus. Dans le contexte de notre quotidien, c'est le gaspillage, c'est la perte qui se produit dans ta vie quand tu prends un chemin où Jésus n'est pas en train de marcher. Et c'est quand tu portes les bagages dont Jésus a souhaité te débarrasser, en les laissant de l'autre côté du portique de sécurité. Et le plus important, c'est que c'est Jésus qui définit ce qui est gaspillé et ce qui n'est pas gaspillé. Ok? Ces idées ne sont pas toujours nos idées. Qu'est-ce qu'il a dit du gaspillage de Marie? En fait, il a dit, c'est une belle action. C'est une très belle action. C'est tellement belle qu'on va raconter ça pendant toute l'histoire. Donc, en fait, finalement, ce n'est pas un gaspillage du tout. Mais c'est un sacrifice. Et c'est un sacrifice voulu et accepté par Dieu. Vous savez, la porte étroite, ce n'est pas un événement exceptionnel dans notre vie. C'est un passage régulier pour ceux qui souhaitent suivre Jésus. C'est un passage régulier. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on est des humains. On a tendance à accumuler des choses. On a tendance à avoir... On commence avec un petit bagage à main et puis on acquiert une valise et puis une autre valise. Et avant qu'on le sache, on a un petit chariot avec 4 valises dessus qu'on a du mal à... On a du mal à pousser dans l'aéroport. Et Dieu dit, il est temps de passer par la porte étroite et on va faire un peu le tri. Et ça veut dire qu'on a des idées, on a des attitudes, il y a des péchés, bien sûr, il y a les biens matériaux, il y a même les ministères. Vous savez, il y a les ministères qui sont plutôt les CDI et puis il y a les ministères, les missions qui sont plutôt les CDD. Et on a tendance à croire parfois qu'une fois qu'on a quelque chose, je l'ai, je le garde. Okay? C'est pas toujours comme ça que Dieu le voit. Parfois, il donne les choses pour une période. Et parfois, on doit apprendre comment renoncer avec grâce et humilité à quelque chose que, oui, Dieu nous a donné ça, il nous a équipés pour ça. Mais maintenant, il veut le reprendre. Et parfois, on a du mal. Ça m'est déjà arrivé. Dans notre vie d'église en Angleterre, c'est dur à vivre sur le coup. Quand Dieu reprend quelque chose, tu penses, mais attends, non, ça c'est mon boulot à moi, c'est ce que je fais dans l'église. Et Dieu le reprend, et on a du mal avec ça parfois. Mais Dieu, il a ses raisons. Et ce que j'ai appris pendant tout ce temps-là, c'est que je peux lui faire confiance. Et ça, c'est très important. Et nous oublions parfois, dans cette époque qui vit surtout l'épanouissement individuel, personnel, que le chemin pour suivre Jésus, c'est un chemin de sacrifice. Et forcément, sacrifice, on l'a chanté ce matin, ça veut dire que ça nous coûte. Ça nous coûte quelque chose. Et si suivre Jésus est ta priorité, je peux te garantir que tu vas perdre des choses. Je peux le garantir. C'est parce que le chemin de Jésus, c'est un chemin de sacrifice. Et je peux te garantir aussi qu'il y aura les chemins vers l'optimisation de tes compétences, par exemple, que tu ne suivras pas si tu veux vraiment suivre Jésus. Okay? On n'est pas dans une communauté qui cherche son épanouissement personnel. On est dans une communauté qui cherche la gloire de Dieu. Et parfois, les deux choses ne vont pas ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. Et c'est contre notre culture d'aujourd'hui. Mais c'est super important de le saisir. Parce que sinon, on va être frustré. Hyper frustré. Okay? Et donc, tu vas perdre les choses. Il y aura des choses gaspillées aux yeux du monde. Et même peut-être à tes yeux. Peut-être que tu vas te dire, moi j'ai ces compétences-là, alors pourquoi Dieu n'a pas choisi de... Bah, peut-être que ce n'est pas le moment, et peut-être que ce ne sera jamais le moment. Peut-être que Dieu t'a donné ça simplement parce que ça lui faisait plaisir de te donner ces compétences-là. Peut-être que c'est dans un contexte complètement autre que tu vas utiliser ces choses-là. Et c'est dur parfois, mais les conséquences, si nous ne suivons pas le chemin de Jésus, si nous ne passons pas par la porte étroite, les conséquences sont la manifestation d'un gaspillage encore plus important. Et Jésus, sa définition un peu de ce gaspillage, c'est que tu ne vas pas me connaître. Tu ne vas pas me connaître. On sait que c'est le chemin qui mène vers la vie. Jésus, il a dit que la vie, c'est en Jean 17, 3, je pense, il dit « La vie, c'est de connaître le Dieu unique et véritable. » Ça, c'est la vie. Alors, vous voulez ça? Moi, je veux ça. Moi, je veux ça. Et nous ne serons jamais les premiers à passer par ce genre d'épreuve-là. Paul, l'apôtre Paul, en Philippiens 3, il parle de son passé, il parle de tous ses acquis, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a réussi dans sa vie, toutes ses connaissances et tout. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Philippiens 3, 8. Il dit, je considère toute chose comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Tout cela. Oui, je le considère comme bon être mis au rebut, poubelle, afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Et cette porte étroite, ça mène à la vie. Ça mène à la connaissance de Dieu. Ça mène à ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ. Et Paul, il continue dans ce passage à dire, je veux connaître la puissance. Et puis, il dit aussi, je veux partager les souffrances de Jésus pour atteindre ce que Dieu a prévu. Et donc, je veux simplement dire que si tu es sérieux dans ton désir d'être disciple de Jésus, tu vas perdre les choses et tu risques de ne pas être confortable ou reconnu ou dans la facilité ou en train d'opérer à la hauteur de tes compétences. Ou de toutes tes compétences, en tout cas. Mais tu vas gagner la vie. Tu vas connaître le Dieu unique et véritable. Et vous savez, finalement, cette histoire de travail, j'ai encaissé la perte professionnelle sans problème. Finalement, c'était un peu le choc sur le coup. Mais après, bon, ça passait. Mais il y avait d'autres pertes liées à cette porte étroite pour venir vers la France. Et même presque 20 ans plus tard, de temps en temps, je suis obligée un peu de refaire ma paix avec certaines choses que j'ai perdues. Donc, parce que ce n'est pas toujours les choses que tu penses que tu vas, qui va te manquer, en fait, qui te manque. Il y a d'autres choses qui peuvent peser. Et on est obligé, chaque fois que ça m'arrive, je suis obligé de repasser par la porte étroite pour dire, j'ai fait mon choix. Et en sachant ce que je sais aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais refusé de passer par la porte étroite? Aucune question que je refuse. Parce que même si je ne connais pas Jésus parfaitement, je le connais assez bien pour être sûre que je veux le mieux connaître. Ok? J'ai un goût de ça. J'ai envie d'avoir la suite. Et si ça veut dire perdre les choses, je vais perdre les choses. Et mon désir pour nous, en tant que communauté, c'est là où je veux terminer. Si tu peux juste mettre le dernier verset, Marion. Mon désir, c'est que notre assemblée puisse être un peuple qui sait dire, sincèrement, on l'a chanté ce matin, comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit béni. On a besoin de se mettre devant Dieu les mains comme ça. C'est quelque chose que j'ai déjà dit il y a quelques dimanches, mais c'est Dieu prend ce que tu veux, le bon, le mauvais, et puis tu me redonnes ce que tu veux. Et c'est ça que je vais, mais je vais toujours garder les mains ouvertes, comme ça. Comme ça, Dieu, il fait ce qu'il veut. Il dépose, il enlève, mais je ne veux pas me mettre devant Dieu les mains comme ça. Okay, je vous invite simplement à fermer les yeux. Seigneur, nous voulons être un peuple qui sait renoncer avec grâce et avec humilité aux choses que tu veux reprendre. Seigneur, nous voulons être un peuple qui sait recevoir tout ce que tu as prévu pour nous. Mais nous savons que le chemin pour te suivre, c'est un chemin de sacrifice. Alors Seigneur, je te demande simplement de nous aider dans notre vie quotidienne, de dire Seigneur, tu donnes, tu reprends. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Amen.